Patria, patriarca, 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 patriarca.
La parole est mienne, pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horse.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois,
de 18h30
à 20h,
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir, vous Salut. Écoutez Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope. Ce soir, en collaboration avec Les Murons des Oreilles, l'émission anticarcérale. C'est notre troisième émission du mois sur le thème des femmes en tôle. Pour ce soir, on va revenir un peu sur la réalité carcérale. Et principalement, en fait, à partir de témoignages de femmes qui ont été en tôle et qui vont parler du quotidien et aussi des solidarités et des luttes qui sont possibles à l'intérieur, mais en même temps de leurs limites et de la répression carcérale. On abordera aussi le fait que... Le quotidien mortel, faut quand même bien le dire, de la prison, la répression, ça amène aussi de la résignation. Aussi en lien avec la spécificité en fait des tôles pour les femmes, qui subissent un double jugement. Un premier jugement parce qu'elles ont commis un acte qui est considéré comme illégal, quoi. Et un jugement aussi parce que en tant que femmes, elles sont sorties des rôles stéréotypés attribués aux femmes qui sont pas censées commettre des actes illégaux ou considérés comme violents. Donc ce qu'on va voir, c'est que les femmes, elles sont particulièrement culpabilisées. Et que ça, en fait, cette culpabilisation et tout l'espèce de réassignation qui a lieu à l'intérieur des tôles. Quand je parle de réassignation, c'est le fait de les remettre justement dans un rôle stéréotypé de femme. En gros, être des bonnes mères, des bonnes épouses, jolies, passives, soumises, quoi. Bah du coup, cette culpabilisation, cette réinsignation, ça joue aussi sur les possibilités, les modes de lutte. Et on abordera aussi les possibilités de solidarité depuis l'extérieur, en tant que personne qui se battent contre toutes les prisons, et aussi en tant que féministe.
Alors pour commencer, on va écouter une lecture de témoignage extrait de la brochure « Il y a du baston dans la tôle » qui peut être trouvée sur le site infokiosque.net. Du coup, de cette brochure, c'est une lecture, un extrait d'un texte de Eliette Bess, une ex-membre d'Action Directe, qui parle notamment de l'organisation d'une tôle pour femmes, fleurie, à l'époque où elle a été incarcérée, c'est-à-dire en 1984. Comment la pénitentiaire à cette époque, mais aussi aujourd'hui, a pour but de réapprendre aux femmes leur rôle de femme dans cette société patriarcale. Et elle raconte ensuite les luttes auxquelles elle a participé, les différentes formes que ça a pu prendre et les limites politiques que ça implique de lutter dans une tôle, en fait.
Le rôle de la prison est de remodeler les individus afin de les faire entrer dans des moules préfabriqués, pour créer des quidam passifs, acceptant l'état des choses, sans idée de les modifier.
Pour les femmes, en 1984, et probablement encore aujourd'hui à quelques nuances près, elle visait à façonner des femmes fidèles à l'image traditionnelle, des fées du logis, bonnes épouses et mères de famille. Fleury est alors un étrange pensionnat de jeunes filles, avec des règlements rigides, souvent incompréhensibles, et des exigences extrêmes. Une tentative de complète infantilisation. On n'y retrouve pas la brutalité des prisons d'hommes, les tabassages y sont rares. La violence y prend des formes plus insidieuses. Le travail de la pénitentiaire est de culpabiliser les femmes, de leur faire accepter le châtiment qui mène à la rédemption.
Dedans ou dehors, si la résistance à l'exploitation unit les êtres, refuser le sexisme et la place prévue par d'autres pour elles dans la société trace une sorte de trait d'union entre les femmes. Mais celles qui sont ou qui ont été en prison excitent la curiosité, les fantasmes. Elles sont un peu sorcières et se sentent sœurs.
Je suis prête.
Chérie.
En 1984, il y avait 432 pensionnaires et 11 bébés à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour 310 places officielles. La prison est divisée en quartiers, où les détenus sont placés en fonction de critères, souvent fantaisistes et arbitraires, qu'aucun texte ne prévoit. Seule la directrice en place décide.
Groupe A. Les détenus récidivistes. Mais aussi toutes celles qui travaillent, au service général, à la bibliothèque, à la comptabilité et à la cuisine, qu'elles soient primaires ou récidivistes.
Groupe des nourrices. Femmes détenues avec leur bébé, âgées de moins de 18 mois.
Groupe B. Avant la visite de Robert Badinter, le groupe s'appelait S, comme spécial. Le ministre ayant été choqué par cette dénomination, le groupe a été baptisé B.
Mais seule l'appellation a changé. Les critères de sélection qui y conduisent et le régime appliqué demeurent les mêmes.
Au groupe B sont toutes celles dont le mandat de dépôt mentionne le délit de proxénétisme, les transsexuelles, les péripatéticiennes et toutes les détenues soupçonnées d'homosexualité à cause de leur aspect physique ou de leur correspondance. Plus quelques politiques, puisqu'il s'agit là d'un isolement partiel.
Les femmes parquées dans cette division ne doivent pas rencontrer celles des autres divisions. Il s'ensuit l'interdiction de travail et de diverses activités.
Groupe C. Les détenus primaires, c'est-à-dire séjournant pour la première fois en prison.
Et puis, à l'autre bout de la prison, il y a le bâtiment D2, la prison à l'intérieur de la prison.
Au premier étage, le D2E, le mitard, avec ses cellules sans air et sans eau, les filles qui flippent et qui hurlent surtout la nuit.
Au rez-de-chaussée, le D2R. Au mitard, on passe un temps prévu, connu.
Au D2R, on passe un temps indéterminé.
Il y fait froid, même en été, comme dans une cave.
Le soleil n'entre presque jamais.
Il fait sombre. Les fenêtres ont un double grillage, aux mailles serrées qui usent les yeux, et qui font presque hésiter à chercher derrière l'herbe verte ou les couleurs du ciel.
Les cours sont petites, sauf une, qui est bétonnée.
Les autres avaient un carré de terre au milieu. On pouvait y voir quelques herbes sauvages. Elles ont été bétonnées depuis.
En mai 1985, après une révolte violente, chez les hommes surtout, la direction fit peindre en blanc les vitres du couloir donnant sur les cours pour nous empêcher de nous voir. Mesquinerie excessive.
Ici, pas de sport, pas d'études, pas de travail, aucune activité. Les détenus enterrés en ces lieux n'assistent pas même aux distractions pseudo-culturelles accordées aux autres.
On y enferme toutes les filles que notre belle société a déjà secouées et que l'enfermement a déboussolées. Les arrivants toxico en manque, et les rebelles, politiques ou pas, mais les politiques y restent. Septembre 1984. La prison ressemble ces derniers temps à une énorme cocotte minute.
Nous sommes quelques-unes à l'espérer à renversement, comme celle de la rue des Bons Enfants.
Il se peut qu'il n'en sorte que de la vapeur, que le feu s'éteigne. Mais la résignation semble se fissurer de jour en jour. Les yeux se font complices.
Les filles savent que ça va péter.
La grande récré.
Le prétexte détonateur importe peu. Nous plaquerons plus tard des motifs raisonnables sur ce ras-le-bol en forme de raz-de-marée.
Il faut profiter de toutes les occasions pour obtenir un peu plus d'espace de vie. Mais il n'y a rien de raisonné ou de raisonnable dans ces instants de joie sauvage vécus intensément.
Seulement la volonté de briser le rythme du quotidien, d'assassiner la passivité, de vibrer ensemble, de prouver et d'exercer notre force, de nous moquer des matones et, un instant peut-être, de leur démontrer que leur petit boulot de fonctionnaire gardienne de moutons peut se transformer étrangement si nous le voulons.
Aucune pensée politique cohérente pour nous canaliser. Seules les vagues déferlantes de révolte primitive nous emportent.
Profiter de la pagaille pour se faire la belle ?
Pourquoi pas ?
Joli rêve.
3 septembre. La colère gronde chez les primaires. 3 d'entre elles ont été isolées. La rumeur dit qu'elles sont contagieuses.
Ici, ça peut vouloir dire qu'elles ont des poux, la gale ou pire.
Toutes demandent de quelle maladie sont atteintes les isolées et refusent de réintégrer la cellule après la promenade si elles n'obtiennent pas de réponse.
Les filles des autres groupes manifestent leur solidarité en frappant en cadence sur les portes, en jetant des papiers enflammés par l'espace réduit des ouvertures de fenêtres. Des you-you provocateurs et joyeux, des hurlements d'encouragement accompagnent tout ça.
Les CRS prennent position autour de la maison d'arrêt, puis entrent. Jet de gaz lacrymogène, tabassage. 2 détenus sont évacués vers l'hôpital de Fresnes, d'autres sont traînés au mitard.
La rage au ventre, dans les cellules, celles qui n'ont pu être que spectatrices promettent. C'est pas fini.
Une prison de femmes, même Fleury-Mérogis, rassemble un nombre de prisonnières équivalent à celui d'une petite prison d'hommes. Tous les individus y sont connus. Si très souvent les femmes débutent un mouvement de révolte, immédiatement repris par les hommes, les émeutières actives sont peu nombreuses, et la forme est plus celle d'une provocation que celle d'une révolution.
Est-ce la conscience de leur nombre restreint, ou tout simplement parce que la violence physique collective n'est pas un réflexe spontané chez beaucoup d'entre elles ? Ce trait prend-il sa source dans leur passé culturel ? Est-ce positif ou négatif ?
Toujours est-il que si des papiers flambent, ce n'est qu'un geste symbolique.
Il n'y a pas de bâtiment en flammes dans l'histoire des prisons de femmes.
Et pourtant, nous avons toutes le désir de détruire ces lieux qui nient la vie, nous séparent de tous ceux et ceux que nous aimons, et peu à peu nous collent à la peau, ou nous transforment en mutantes, asociales. Septembre.
Tout ensemble au mitard, nous sommes toutes des meneuses. La colère s'est généralisée.
Les coups des CRS et les filles au mitard pour 20 jours, dont 10 avec sursis, ont embrasé les esprits.
Dans presque tous les groupes, les filles refusent de rejoindre les cellules.
Évidemment, le groupe des nourrices rentre avec les enfants.
Les travailleuses ont peur d'être déclassées.
Les tabassages d'hier ont refroidi quelques velléitaires.
Au troisième appel, les plus craintives acceptent de rentrer.
Mais leurs cris et le vacarme survoltent encore plus celles qui restent.
À l'heure du repas, elle lance par les fenêtres les boulettes infectes distribuées ce soir, écrasées dans du pain, accompagnées de bouteilles d'eau expédiées de la même façon. Pour une fois, nous les trouvons excellentes. Il fait un peu froid et les petites laines atterrissent. Sympathique attention de celles qui ne sont pas restées avec nous, craintives mais solidaires.
Dans les cours, quelques murs sont escaladés pour rejoindre les copines et certaines grimpeuses atteignent les toits.
C'est pas facile.
Un entracte fantastique, une immense provocation entre rêve et réalité, pourtant bien dans le présent.
Nous rions, et nos rires n'ont pas le même son que les autres jours. Personne ne veut plus rentrer.
Les filles enfermées regrettent de ne pas être dehors. Cris, chants, cabrioles, danse, une page du temps volée à la prison.
Pourtant, malgré la fête, l'excitation, la joyeuse pagaille, le bruit, la volonté de clamer que nous sommes des êtres humains, que la prison n'est qu'une enclave dans la société et non pas une planète d'extraterrestres, par-delà les difficultés à surmonter pour parvenir à ces moments de confrontation et leurs implications dans le futur immédiat ainsi qu'à plus long terme, nous ne faisons qu'attendre les CRS.
Comme les manifestants qui occupent une ambassade, une NPE ou un lieu public et symbolique quelconque.
Comme les ados qui cassent les vitrines et attendent les flics pour jouer à cache-cache, fuir, lancer des pierres et éventuellement, c'est la part de danger incluse, se faire matraquer, tabasser, peut-être même arrêter.
On cherche jusqu'où on peut aller et on tente d'aller plus loin.
Ici, il n'y a pas d'alternative.
À 19h30, un hélicoptère survole la prison.
La tension monte.
Nous savons que les CRS suivront.
Nous nous regroupons.
Mais les chants ne cessent pas. Les filles à l'intérieur hurlent plus fort. Mais commencent à penser qu'elles ont eu raison de rentrer.
Les CRS entourent la prison, puis rentrent par toutes les portes donnant sur les chemins de ronde.
Remake de la veille, en plus grand et en plus long.
Une sorte de ballet bizarre. Une force haineuse du côté des hommes.
Une provocation exaltée du côté des filles galvanisées par le face-à-face.
Aucune tentative de conciliation ou de négociation n'est envisagée, ni par les uns, ni par les autres.
Les hommes cognent, hurlent, casques et boucliers en avant, jusqu'à ce que le chef ordonne le repli.
Les filles résistent et tentent de se défendre.
Dans la confusion, de vieux comptes entre gardiennes et détenues se règlent à coups de poing.
Une fille dira plus tard avoir entendu un gradé crier
« Ne frappez pas !»
avant de recevoir un coup de matraque.
Enfin, les prisonnières regagnent les cellules, où les plateaux scandent.
C'est que le début. On continue le combat.
Pour saccager la prison, faut que l'action démarre de l'intérieur des bâtiments.
Il faut ligoter ou terroriser une matonne et s'emparer des clés.
Le refus de monter en cellule, c'est une émeute, pas une mutinerie. Les cours nous appartiennent.
Nous pouvons même passer les murs si nous n'essayons pas d'escalader ceux de l'enceinte.
Si nous ne tentons pas de briser les portes qui mènent à l'extérieur, nous pouvons circuler librement dans ce no man's land momentané. Le temps que la direction comprenne que nous ne rentrerons que par la force, que l'hélicoptère appelé survole les lieux et estime le nombre de CRS nécessaires à faire cesser la fête.
Une émeute, pour le pouvoir en place, ce n'est qu'un signal d'alarme.
Au bout de quelques heures, voire de quelques jours, ceux qui se sont permis de réagir sont écrasés.
Plus tard, peut-être, fera-t-on des promesses de réforme en affirmant benoîtement que cette révolte était inutile, néfaste même à des projets de modification depuis longtemps envisagés.
Mais aucune amélioration n'a jamais été acquise autrement que par la lutte de ceux qui sont concernés.
La solidarité des autres est la bienvenue. Elle accompagne notre combat, en prison comme ailleurs.
« 5 septembre, la grève des plateaux repas. Au mitard, nos compagnes refusent les plateaux repas.
Nous décidons de faire de même, et la bouffe retourne à la cuisine.
Ça dure 8 jours, jusqu'à leur sortie du mitard.
La méthode de la grève des plateaux, ou plus radicale celle de la grève de la faim, est nettement moins exaltante que l'émeute.
Bah, moins ludique surtout, hein.
Les armes sont toujours à double tranchant. En prison plus encore, et leur choix très réduit.
Cette lutte a un côté automutilation, un côté chantage, plutôt déplaisant. Il semble ridicule de dire à l'administration pénitentiaire et à la chancellerie
« Si vous ne prenez pas nos revendications en compte, nous nous laisserons mourir de faim. »
En sachant bien qu'elles n'en ont rien à foutre.
Mais les luttes en prison n'ont-elles pas un peu toutes la même couleur, y compris l'émeute et la prise d'otages ?
Dans ce monde clos, emmuré, grillagé, qui, à la moindre alerte, est survolée par les hélicoptères et investie par les CRS, toute lutte est une gageure.
La seule issue, c'est la belle.
Toute autre solution est piégée. Elle reconnaît l'autorité et la légalité. Elle n'est qu'une demande d'application de la loi ou de grâce. Au mieux, un appel à la réforme.
Coincés dans nos contradictions, nous ne pouvons pas renoncer aux améliorations du quotidien.
Nous sommes toujours partantes pour les paris stupides, et tenter l'impossible est un jeu que nous aimons.
Ici, la résistance est la seule façon de survivre, si nous refusons de perdre notre identité.
Vous êtes toujours sur Dégenré, sur 97FM Radio Kaléidoscope. Et on vient d'écouter après ce témoignage un morceau de CTB. Et CTB, c'est un groupe de copines stéphanoises qui n'existe plus maintenant, mais qu'on ne se lasse pas de rediffuser dans Dégenré, parce que entre autres, elles ont vraiment des super textes, comme celui-ci qui est qui parle des émeutes et des prisons de femmes et qui est tiré de la brochure Prisonnière.
Alors moi j'avais envie de réagir sur le témoignage qu'on vient d'entendre et où comment en fait elle parle en fait que la lutte des femmes en prison elle est vraiment plus difficile à mettre en place que dans les prisons d'hommes et moi j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce truc que même, enfin, dans la société en général, on apprend aux femmes la douceur, le dialogue, à contenir sa colère, à être résignée en fait à un rôle d'être inférieure en fait dans une société patriarcale, et que aussi en prison, il y a la majorité des femmes en fait qui ont des enfants à l'extérieur, et que ça aussi c'est un moyen de pression en fait pour les tenir tranquilles en fait, et du coup elles sont moins disons que comme à l'extérieur, en fait, les femmes, elles sont moins libres de disposer d'elles-mêmes et du coup d'avoir la possibilité de lutter et de se révolter. Et ça se ressent à l'intérieur des prisons par par en fait moins disposées à lancer des émeutes, à se rebeller contre la pénitentiaire.
Ouais, puis j'ai l'impression que c'est aussi le truc dont elle parle dans le témoignage et dans le morceau de musique aussi, en fait, d'être coincée entre la contradiction ou ce qu'elle dit, ce qu'on veut, c'est pas ces revendications raisonnables, c'est pas juste l'amélioration des prisons, c'est pas un jour de douche en plus, ou des trucs comme ça, que la vraie solution, c'est de détruire les prisons ou ces labels, mais où en même temps, il y a ce truc de vouloir quand même, en fait, des améliorations au niveau du quotidien qui amènent potentiellement à se retrouver coincée à essayer d'être dans un dialogue qui est toujours un faux dialogue, en fait, avec l'administration. Et qu'avec en plus tous les moyens de pression qu'il y a sur les meufs à l'intérieur, c'est aussi un moyen de contenir les révoltes, quoi. On va maintenant avoir aussi un autre point de vue sur la réalité carcérale avec une interview d'Audrey, qui est une ex-détenue pendant 3 ans, qui nous parle dans cette partie-là de du quotidien de la tôle, mais aussi elle parle aussi des solidarités entre meufs qui s'y tissent et des révoltes, mais aussi de leur répression par la matonnerie et l'administration pénitentiaire. Et elle va aussi aborder la question de la sortie et des possibilités de solidarité depuis l'extérieur, et entre autres l'importance de témoigner de ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Et puis on avait vraiment l'envie de faire cette interview, c'est venu aussi après la lecture d'un bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle De l'ombre à la lumière et qui rassemble des slams, des textes et des lettres de prisonnières. Qui d'un côté dénonce l'horreur de l'existence des prisons, mais qu'on aussi bien l'arrache, quoi. C'est vraiment un livre qu'on vous recommande de lire. Et on va maintenant écouter l'interview. Alors on voudrait juste s'excuser pour le son qui est vraiment bof, il faut bien le dire. Mais en fait on a dû faire l'interview à distance et on a eu des petits problèmes d'enregistrement. Mais donc ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Alors bonne écoute.
Je m'appelle Audrey, j'ai 30 ans, donc pour moi la prison ça date un peu maintenant parce que c'était il y a 10 ans quand même. Voilà, j'étais incarcérée en 99 et jusqu'en 2002 avec deux sorties entre les deux. 3 peines en tout, et voilà, donc j'ai fait 24 mois dans 2 prisons différentes en région parisienne, à Versailles, à la MAF et à Fresnes aussi. Donc c'est pas la même chose, ces 2 prisons, donc je parlerai des deux à chaque fois pour situer quoi mon propos. Et depuis j'étais réinsérée, comme on dit, c'est-à-dire que je travaille et tout. Et par contre, je paye toujours une amende suite à cette incarcération pour stupéfiants, puisque non seulement j'étais incarcérée un certain temps, et après j'étais aussi en sursis mise à l'épreuve encore un certain temps, et j'étais condamnée à une amende pécuniaire parce que pour les stupéfiants, en fait, on doit payer le prix de la marchandise, quoi, qui nous ont saisi, mais on doit la payer quand même, parce que pour l'État, on a gagné de l'argent à ses dépens, quelque part, là. Il y a cette idée-là, donc j'ai une amende de 2 millions de francs que je paye jusqu'à la mort, je pense. Voilà. Du coup, j'en suis par rapport à la prison. Après, j'ai gardé beaucoup de contacts au départ, et puis plus le temps passe et moins j'ai de contacts aujourd'hui avec la prison. Mon contact actuel, c'est une amie qui était incarcérée avec moi pendant la majorité de ma peine, en fait, et qui était incarcérée en France et maintenant en Espagne, donc je vais au parloir la voir de temps en temps et on s'écrit toujours, et la seule solidarité qui me reste, c'est ça, quoi, le courrier et les mandats de temps en temps. Voilà. Après, c'est vrai qu'au départ, à ma sortie, j'étais tout le temps avec des ex-détenus avec qui j'avais partagé ma peine, et que ensemble on est sortis, quoi. On s'est hébergés mutuellement, qu'on s'est dépanné de l'argent, qu'on s'est échangé des plantafs, ce genre de truc, quoi. Pour moi, c'était ça, la solidarité de dehors. Et par rapport à dedans, bah, c'est ce que j'ai décrit dans le livre. Et puis, voilà, bah, en gros, c'est pareil, ça passe par le matériel, par le moral aussi, les discussions, les échanges de drogue aussi quand on en a besoin, etc. Du coup, ouais, j'ai eu de la chance de bénéficier de pas mal de solidarité, dans la mesure où, bah, déjà, dès que je suis arrivée sans rien, sans argent, sans vêtements et tout ça, parce que je venais de province et qu'on m'a incarcérée à Paris, et du coup, assez vite, voilà, on m'a dépanné du thé, du café, des trucs de première nécessité, et puis surtout, on m'a enseigné le fonctionnement de la tôle, et ça, c'est super important, quoi, pour s'en sortir là-bas, pour vivre au quotidien et tout ça. Et après, ben, moi aussi, quand j'étais là-bas, comme je suis restée un certain temps et qu'il y a beaucoup de courtes peines chez les femmes à Versailles comme à Fresnes, la plupart c'est pour quelques mois en fait. Donc, au bout d'un moment, ben, je faisais un peu fonction de ressources pour les nouvelles arrivantes et du coup je les accueillais avec ce que je pouvais donner, comme on avait fait pour moi, quoi. Donc oui, il y avait un peu cette transmission-là et ça c'était chouette.
Et c'est quoi comme genre de transmission, du coup, qui est importante à savoir?
Bah, du coup, quand t'arrives, déjà, bah, faut apprendre à faire un yo-yo. Donc ça, bon, bah, c'est pas si difficile, mais bon, faut quand même s'entraîner un peu, parce que sinon, ça tombe par terre, et du coup, la solidarité, elle tombe à l'eau. Donc c'est envoyer des trucs, voilà, à manger, à boire et tout ça, et puis des clopes, enfin, les trucs cons du quotidien, les besoins primaires, quoi, on va dire. Et après... Bah, ça peut être aussi, si t'as pas d'avocat, un numéro, une adresse d'avocat, des trucs comme ça. Savoir aussi que si tu veux telle place ou tel travail en détention, faut que tu passes par là, comme il faut faire des mots pour tout. Savoir à quels interlocuteurs il faut s'adresser, comment faire pour avoir plus vite des médicaments, des rendez-vous chez l'assistante sociale, etc. Voilà, quoi, ce monde à part... Donc il y a des règles, il y a des trucs à savoir, et pour moi, bah, c'est ça que j'ai appris et que j'ai essayé de transmettre après.
Et toi, t'as vécu un peu des trucs de solidarité ou de lutte, ou justement, c'est quoi les possibilités un peu de lutte ou de revendication à l'intérieur, ou bah, justement, comment c'est réprimé aussi, quoi?
Ben, le premier truc dont je me souviens comme moment fort de solidarité, c'était 2 mois après mon arrivée à la maison d'arrêt de Versailles, où il y a une détenue en fait qui a fait une crise d'angoisse, qui était connue pour ça, que je connaissais un peu dans la cour, et qui a commencé à hurler en fait dans sa cellule. C'était le soir, donc voilà, les surveillantes n'étaient pas censées nous ouvrir après 17h30, donc on était livrés à nous-mêmes, et elle a crié vraiment, et on a eu super peur pour elle, et du coup comme il n'y avait pas de surveillante qui venait à son secours, nous, on a commencé à gueuler, à taper avec les balais dans toutes les cellules. On a fait un peu d'enfer jusqu'à ce qu'une surveillante vienne pour notre co-détenu. Et du coup, bah, voilà, ça, c'était déjà, ça a fonctionné. Ils ont fini par ouvrir sa porte et faire le nécessaire. Donc voilà, le genre de truc qu'on peut faire, bah, c'est être ensemble et faire du bruit ou la violence, hein, quelque part. Il y a aussi, de façon individuelle, beaucoup de détenus qui pratiquaient l'automutilation. Et l'automutilation, ça leur permettait d'avoir des avantages. Enfin, des trucs qu'elles demandaient depuis longtemps, quand elles s'automutilaient, elles l'avaient plus vite, quoi. En gros, c'est ça. Ensuite, il y a eu, donc, comme on n'a pas le droit aux pétitions, il y a eu cette lettre, enfin, les plusieurs lettres que moi j'ai écrites parce que je savais pas quoi faire d'autre, quoi, qu'on nous écoutait pas quand on demandait des audiences. Alors déjà, quand tu demandes une audience avec un gradé, parce que les surveillantes de base, elles n'ont pas trop de pouvoir. Donc, quand tu demandes une audience avec un gradé, ça prend du temps. Avec la direction, ça prend encore plus de temps, c'est-à-dire 2 semaines, je sais pas, 1 semaine ou 2, ouais. Ouais, donc voilà, donc pas de pétition, mais des lettres écrites. Puis ben, pareil, le truc de quand il y a eu un gros problème aussi, parce que bon, j'avais été au mitard un peu injustement, et du coup, ben, mes co-détenues, elles ont refusé de remonter en promenade tant qu'ils me sortaient pas, et puis bon, ça a tourné un peu à l'émeute. Voilà, j'ai une pote qui s'est retrouvée au mitard avec moi parce qu'elle avait frappé un surveillant. Et voilà, mais c'était super à ce moment de solidarité. Je m'en souviens encore. Et voilà, donc j'ai fini par être transférée après ça, parce qu'il était hors de question pour eux de me libérer du mitard sous la pression des détenus, évidemment.
Du coup, ils t'ont transférée direct?
Moi et la détenue qui avait frappé le surveillant, donc dans deux prisons différentes évidemment, parce que c'était un peu mon allié dans la tôle et qu'il avait compris assez vite, et du coup, très vite, moi je me suis mis avec elle en cellule à deux, et au bout de 2-3 mois, ils nous ont séparés, sans véritable raison, si ce n'est qu'on s'entendait trop bien, qu'on était complices, qu'on s'éclatait, et que ça leur plaisait pas, quoi. Donc voilà comment ils cassent la solidarité, la répression, le mitard, le prétoire aussi, il s'est passé beaucoup de fois, j'ai eu parfois des sursis, parfois des fermes, mais c'est vrai que et mon allié, pareil, quoi, on se retrouve souvent en mitard, donc après, faut prendre ce risque-là, faut assumer là, ça, mais nous, on se disait que de toute façon, ça valait le coup quand même de se battre, quoi, on pouvait pas rester passive, à subir ce putain de traitement inhumain, tous les jours, sans brancher, quoi, donc on s'en foutait un peu de la répression, on était un peu rien à perdre, rien à foutre, quoi. Mais évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, parce que faut pas oublier qu'il y a plein de meufs qui sont mamans déjà, donc ont la responsabilité des mômes qui sont dehors, qui sont placés parfois dans la famille, qui n'ont pas envie que leur détention soit prolongée à cause du mitard, comme ça a été le cas pour nous, et etc. Donc, c'était un moyen que j'avais de me révolter et tout, mais je suis consciente que. C'est pas possible pour tout le monde là-bas.
Et tu parlais aussi de ce truc de refus de plateau qui est des fois revendiqué comme grève de la faim, comme aussi moyen de pression ou de lutte.
Ouais, mais alors les refus de plateau, la grève de la faim, pour que ça fonctionne, il faut que ça dure un sacré moment. Et je connais aussi des détenus qui sont restés paralysés à la suite de ça, qui ont eu des lésions graves. Et du coup, moi j'en ai fait une de 10 jours et c'était déjà bien. C'est vrai que tu sais pas trop ce que tu risques physiquement et tout, mais c'est quand même dangereux. Et je pense que, les détenus qui en arrivent à faire une grève de la faim, c'est vraiment le moyen extrême, quoi, je veux dire. Mais c'en est un. C'est vrai que la grève de la faim, moi j'en ai fait une à ce moment-là avec deux ou trois autres détenus dans le mitard, mais sinon en 2 ans, dans la détention des femmes, j'ai pas vu d'autres grèves de la faim, donc c'est pas un moyen très fréquent. Par contre, l'automutilation, c'est tous les jours, quoi. Et t'as des meufs qui ont 1000 cicatrices sur un bras, 1000 sur l'autre, et qui font ça, voilà. De toute façon, une fois que tu commences, moi je l'ai fait aussi de temps en temps. Moi c'était plus par impuissance et par rage, et voilà. Mais quand tu commences après, ça devient vite un réflexe où faire attention, quoi. Parce que le but c'est que ce soit eux qui morflent et pas toi. Et moi j'essayais de garder ça à l'esprit quand je faisais une action ou quand j'essayais de me battre. Contre le système carcéral. Quand tu sors avec ton gros sac et ton numéro d'écrou, même si tu enlèves ton numéro d'écrou rapidement, parce que dans le métro ça trempe, mais tu as l'impression qu'il est sur ton front, quoi. En fait, c'est les premières impressions, c'est ça, tu vois. Je regarde les gens dans le métro et tout, je regarde s'ils me regardent, s'ils voient sur mon visage d'où je sors ou pas, et tout ça. Et puis par la suite, c'était difficile parce que la plupart des détenus avec qui j'avais gardé contact, elles voulaient oublier et redevenir normales, entre guillemets. Moi, je pouvais pas, quoi. Encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, la plupart des cauchemars que je fais, ils sont en prison, tu vois. Et voilà, même si j'ai réussi, entre guillemets, à avoir la vie que je veux aujourd'hui, j'oublie pas, j'oublierai jamais, et j'ai pas envie d'oublier. Et ça, c'est vrai que ça fait chier les gens, parce que quand tu parles de la tôle, juste, moi, quand on me disait, mais arrête de parler de ça, je disais juste, ça fait partie de mon quotidien pendant 2 ans, si tu me dis de pas parler de ça, tu veux me tuer, tu veux encore me remettre en prison, quoi, c'est pas possible, donc laisse-moi parler, et si ça te saoule, tu peux bouger, quoi. Moi, je sais que j'avais une position un peu extrême par rapport à ça, mais en même temps, c'était une nécessité pour moi d'exprimer tout ce que j'avais pu vivre et ressentir pendant cette incarcération-là, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours assumé le fait d'avoir fait de la prison aussi un peu comme une revanche, quoi. Ils voudraient qu'on ait honte, ils voudraient qu'on culpabilise, et non, moi j'assume, j'en fais une force, et c'est comme ça que je les nique. parce que pour moi c'était toujours nous et eux, tu vois, et je lâcherai pas l'affaire, je les laisserai pas tuer mon esprit et prendre ma liberté au-delà des murs, mais malgré moi, bah ouais, je me rends compte que bah voilà, ça te conditionne quand même et ça laisse des empreintes, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Bah, c'est vrai que j'ai participé à beaucoup d'émissions, j'ai témoigné beaucoup dans ce sens-là, parce que aussi j'avais l'impression que il y avait peu de femmes qui ont témoigné par rapport à ça. J'ai cherché des livres sur les femmes en prison, des témoignages, des trucs, et bon, ça se compte sur les doigts d'une main. Enfin, à l'époque, en tout cas, il y a 10 ans, maintenant un peu plus, mais pas tellement non plus. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais dans cette démarche-là, quoi, de lutte et d'assumer. Ben alors moi j'ai connu l'envolée en fait vers la fin de ma détention dans les derniers mois grâce à une détenue, celle que je vois toujours aujourd'hui, donc Victoria, qui était incarcérée pour des raisons politiques. Et donc c'est elle qui m'a branchée sur cette émission, j'ai commencé à écouter et puis à envoyer des lettres, et mes lettres ont été lues à l'antenne. Alors voilà, ça fait super plaisir, quoi. Évidemment, d'être en lien avec des gens. Déjà, moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui se battaient contre la prison parce que j'étais pas très politisée à cette époque-là. Et voilà, j'ai commencé à écouter assidûment et à aussi entrer en contact avec d'autres détenus par le biais de la radio. Et voilà, et à écrire aux gens qui animaient l'émission. Et puis, quand je suis sortie, ben voilà, je suis allée témoigner à l'émission 2 ou 3 fois. Et puis, ils m'ont proposé, enfin, moi aussi, j'avais envie de faire l'émission toutes les semaines, quoi, et d'essayer justement de construire une solidarité avec les gens à l'intérieur. Et voilà, après, moi j'ai essayé de faire écouter un peu cette émission à l'intérieur aux autres détenus, mais bon, c'était pas très fun comme émission, quoi, pour une fille de mon âge. J'ai préféré écouter Skyrock et tout. Enfin voilà, je pense que le format d'émission et qui parle, c'est hyper important. Dans cette émission, quand j'ai écouté au départ, il y avait une meuf, quelque part, c'est important, quoi. Et voilà, après, c'est vrai qu'on me demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais qu'il y a des gens qui font des feux d'artifice, des trucs comme ça, un nouvel an. Je sais aussi que moi je suis partie envoyer un colis derrière les murs de la prison à mes anciennes co-détenues, quoi, parce que je savais de quoi elles avaient besoin. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai monté le mur et je leur ai envoyé des trucs. Et puis j'apporte aussi des vêtements depuis toujours, quoi. Depuis le début, quand j'ai des vêtements en trop chez moi ou avec des copines, je les apporte à la tôle pour les détenus, ce genre de truc, parce que voilà, c'est important aussi par rapport à la réassignation et tout. Si tu veux, il y a les vêtements du secours populaire et tout ça, mais bon, en général c'est pas top, quoi. Enfin, moi je me souviens que c'est un truc quand même au bout d'un an, quand tu restes avec les mêmes affaires et que t'as pas de parloir et tout ça, enfin c'est hyper important, je trouve, les vêtements. Et comme c'est un des seuls trucs qu'on a le droit d'apporter en tôle, je pense que ça c'est un truc à faire. Et puis le courrier, parce que c'est le seul moyen de communiquer avec les gens à l'intérieur et que c'est tellement important que voilà, un courrier dans ta journée, c'est un putain de rayon de soleil. Et ça change tout, quoi, d'être en lien, de pas se sentir seul dans cette merde. Et voilà, par rapport à l'émission, et bon, à l'envolée, il y avait aussi un journal, donc ça, c'était chouette. Et au début, le journal, il passait pas en détention. Après, on a fait une couverture mytho pour que ça passe, et c'est passé. Un truc genre la voix de Dieu ou je sais pas quoi, un truc religieux, du coup, c'était hyper drôle. Donc voilà, je pense aussi que les journaux, avec des témoignages, avec aussi des trucs genre guide de survie en détention, ce qu'a fait l'OIP déjà, l'Observatoire International des Prisons, même si on peut critiquer par ailleurs. Mais ça, c'est des outils pour les détenus qui me semblent indispensables. On voyait des livres aussi. Alors, il y a moyen. Moi, j'étais en contact avec une bibliothécaire parce qu'il faut voir la bibliothèque de Fresnes, par exemple, où tu n'as que des romans à l'eau de rose et des conneries comme ça. Et la lecture, c'est aussi quelque chose d'hyper important en détention, je pense. Du coup, il y a moyen, en fait, avec certaines bibliothécaires. Moi, j'avais pris contact avec une où on pouvait faire des suggestions de livres intéressants, donner des livres aussi à l'intérieur pour la bibliothèque, des livres féministes ou ce genre de choses qu'on trouve pas beaucoup là-bas. Ça m'aurait bien aidé personnellement et je pense que ça serait salutaire aussi pour d'autres détenus, quoi. Enfin, moi j'ai lu mon premier livre féministe là-bas, c'est Angela Davis en fait, Ask Class Sex, qui a été un putain de déclic pour moi et qui j'espère le sera pour d'autres, quoi. Mais c'était le seul livre que j'ai trouvé dans toute la bibliothèque là-bas. Donc pour moi, ça passe par ça, quoi. Le courrier, la lecture, le sport, tout ce qui permet de, voilà, de se réapproprier sa liberté, quoi.
Libérer la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la.
Est-ce que toi, t'as l'impression aussi que les meufs en tôle, elles reçoivent autant de soutien de l'extérieur, bah, que les mecs? Parce qu'en fait, j'ai l'impression, bah, souvent, les hommes, c'est vachement aussi des femmes qui vont au parloir, quoi. Ouais, c'est vachement, je sais pas, plus, ouais, les copines ou les mères ou les sœurs, etc. Et du coup, je me demande si, bah, voilà, il y a autant de soutien des proches ou de l'extérieur quand t'es une meuf et que t'es incarcérée, quoi.
Non, non, pas du tout. Bah, moi, je peux comparer parce que je suis allée voir un mec au parloir pendant quelques temps dans plusieurs prisons en France et que, du coup, je me suis tapé le parloir avec d'autres meufs. Et d'ailleurs, là, c'était bien aussi parce qu'on a créé un peu de solidarité entre femmes de parloir. Mais quand j'étais à l'intérieur, bah, y avait beaucoup moins de visites, quoi, pour les filles, hein, c'est clair. Bah, souvent, elles sont là à cause de leur mec, donc il va pas venir, forcément. Soit ils l'ont incarcéré, soit elles l'ont tué. Enfin, tu vois, c'est quand même assez souvent. Et du coup, les personnes qui viennent voir, bah, c'est les parents, souvent. La mère, le plus souvent. Parfois, les deux, s'ils sont là. Et puis, bah, moi, j'avais une ou deux potes qui venaient me voir. Voilà, mais c'est vrai que moi, j'ai dû avoir 6 parloirs en un an. Un truc comme ça, quoi. C'est pas... Alors que la plupart de mes potes qui étaient incarcérés avaient des visites toutes les semaines. Et c'était clair que, bah, voilà, le dévouement des meufs pour leurs mecs, bah, ça joue, quoi. Et puis l'opprobre contraire qu'il y a sur les meufs incarcérées fait que bah, elles avaient moins de visites, moins de soutien, moins d'argent, moins de courrier, moins de tout.
Totale, une bascule brutale dans un chaos monumental. Mais où sont-elles les couleurs pastel dans ce navrant cocktail de béton et de métal? Et l'ennui mortel, comme une maladie mentale, te martèle et te rappelle qu'il est inutile, voire infantile, de rêver à terre plus fertile ou sentimentale. Et les sentinelles sont matinales, comme à leur accoutumée, peu maternelles. Leur fureur est infernale, et elles peuvent être fières d'elles. Leur impunité semble éternelle, aussi sans pitié que sans piternelle. Comme une berceuse vicieuse ou une ritournelle. Des sirènes bleu ciel, dans un bruit démentiel, rythme le ballet, des gilets pare-balles. Un avertissement pour qui refuse docilité et asservissement. Le remboursement d'une dette disproportionnée contractée par ceux que l'on nomme forcenés. Forcément assommé dans le ciment et comme sommé de subir son sort sans ressentiment. J'ai assassiné ma sensibilité et puis poussé mon premier rugissement. C'est pour chasser comme le fâcheux terme. Ne sois pas surpris, j'ai beaucoup appris. C'est pour chasser comme le fâcheux terme. Ne sois pas surpris, j'ai beaucoup appris.
Vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaléidoscope, une émission sur les femmes et la tôle. Et après cette première partie d'interview, on a écouté un morceau de Kazé, donc une rappeuse. Le morceau, il s'appelle Premier Rugissement. Et bah, il parle pas directement de la tôle, mais en fait, on pourrait croire, vu que ça décrit aussi ben la prison à l'extérieur et puis ben le racisme de l'ensemble ben keuf, justice, prison qui fonctionnent ensemble finalement.
Du coup, moi, je voulais dire deux trois trucs sur sur le témoignage d'Audrey. Et du coup, par rapport à la répression de la lutte en prison, où elle raconte comment en fait, quand il y a eu des refus de retourner en cellule, comme elle a fait du mitard tout ça, et que ça peut aussi être des trucs d'allongement de peine pour punir en fait les révoltes en tôle. Et du coup, elle parle du fait que vu qu'il y a pas mal de meufs qui sont mères en fait, et ben elles peuvent pas se permettre d'allonger leur peine en fait, parce que leurs enfants sont placés, parce que plein de trucs que ça implique quoi, et que du coup les moyens de lutte c'est plus l'automutilation par exemple, et que moi je trouve c'est aussi ça reflète encore ce truc que les femmes, on leur a appris à plus retourner la violence contre soi, c'est encore un truc de conditionnement, quoi. Et que ça, c'est un truc de tout prendre sur soi plutôt que de retourner, d'extérioriser la colère, en fait. Et du coup, un autre truc aussi qui m'a fait réagir, c'est ce truc où elle parle que les femmes en tôle, elles ont moins de soutien que les hommes, moins de parloir et tout ça, et que je me demande en fait en quoi ça contribue au fait que ben qu'elles se sentent peut-être plus seules et que ça donne moins de force en fait pour faire des émeutes ou pour lutter contre la pénitentiaire en fait.
Mmh. Bah, et en même temps, elle explique aussi. Peut-être c'est plus dans la deuxième partie, mais où ce truc d'avoir moins de soutien à l'extérieur, ça fait peut-être aussi le truc qu'elle se serre les coudes à l'intérieur et que peut-être il y a plus de solidarité entre elles. Mais ouais, effectivement, que les trucs de révolte, bah c'est aussi toujours limité parce que ouais, t'as toujours cette espèce de pression de révolte égale répression, enfin avec cette espèce de truc là qui pend. Même si elle dit que ouais, par exemple ce truc peut-être les meufs plus jeunes et qui justement ont pas de gosses et qui étaient plus hop on fonce dans le tas parce que voilà on peut pas juste rester là à accepter ça, qu'il y avait quand même enfin des trucs qui se passent quoi. Mais et du coup bah j'ai l'impression sur ce truc de soutien ça. Bah là, elle parle un peu des trucs qui sont possibles de faire depuis l'extérieur, mais ouais, ça donne aussi envie de, bah je sais pas, de penser à tous les trucs qui sont de envoyer du courrier, faire aussi, je sais pas moi, des manifs dans des tôles où il y a des meufs à l'intérieur, de réfléchir à c'est quoi les moyens de soutien pour justement essayer de briser un peu cet isolement quoi. Et bah du coup on va écouter une deuxième partie de l'interview qui pour commencer décrit plus le quotidien d'une journée avec tout le truc justement de l'ennui et de du côté mortel de ce truc ultra répétitif où il se passe pas grand chose quoi. Et elle va aussi pas mal parler de un peu des spécificités justement des prisons de femmes par rapport à la réassignation, que ça soit aussi bien dans les activités qui sont proposées que dans les discours, tous ces trucs qui du coup poussent pour les femmes à rentrer en fait dans une espèce de carcan de la féminité que ça soit par le mariage, les gosses, des métiers dits typiquement féminins, s'occuper de son physique, enfin tous ces trucs de normes patriarcales en fait quoi.
Ouais, moi c'est d'ailleurs là ça me fait penser ce que tu dis à un article en fait que j'ai vu dans Marie France où en fait c'est un article sur un défilé de mode des femmes en prison en fait, et où c'est vraiment ce truc de c'est bien, elles se retrouvent femmes, elles défilent, elles mettent leur corps en valeur, etc. Et c'est vraiment ce truc là de être belle, être tout ça. Enfin, ça m'a fait penser à ça.
Oui, qui est vu comme un espèce de bon signe, genre hop, en fait, ouais, elles ont commis des actes illégaux ou violents, du coup, elles sont sorties de justement ce que doit être la féminité. Alors hop, c'est parti, on va les remettre dedans à grands coups de, je sais pas, formation de secrétaire et d'esthéticienne, quoi, c'est un peu ça. Et puis ça, c'est un truc, ben, on n'aura pas vraiment le temps d'en parler à cette émission, mais qui est par exemple aussi hyper présent sur tous les centres d'enfermement et tous les trucs pénitentiaires pour mineurs, quoi. Où là, tout ce truc de d'assignation à la féminité, c'est pareil, quoi. C'est vraiment, ça envoie du gros, quoi. Et ben, dans cette partie, du coup, ben, elle va parler de tout ça et aussi un peu ben, des différences, elle, qu'elle a pu le voir par rapport aux prisons de mecs sur les rapports entre détenus et aussi le rapport à la sexualité et au fait d'être lesbienne ou d'avoir des relations entre meufs en tôle. Et ben, bonne écoute.
À Fresnes, on se faisait réveiller par une sirène à 6h45. Et après la sirène, t'as 5 minutes pour être debout à la porte quand le chariot du petit déjeuner passe. Ce qui est un peu relou, quoi. Mais bon, voilà, si tu veux manger, t'es obligé. Et parfois même, moi je me souviens que comme j'avais un peu des frictions avec certaines surveillantes, même si j'étais debout devant la porte, elles refermaient sûrement. Et après, quand j'ai appelé avec la sonnette d'alarme pour dire que j'ai pas eu mon déjeuner, elles disaient devant la gradée que j'étais pas prête. Et comme c'était ma parole contre la sienne, ben voilà, elle avait gagné. Donc voilà, une fois qu'on a le petit déj, il se passe pas grand chose. Bah, la douche 3 fois par semaine, donc tu peux avoir la douche à ce moment-là, si c'est le bon jour. Sinon, bah, après, tu fais ta toilette au bidet, au lavabo. Après, bah, t'as une promenade le matin, mais pas tout de suite, quoi, vers 10h, genre. Et voilà, faut demander à sortir. Si tu mets pas ta sonnette, c'est pareil, on te fait pas sortir. Du coup, en cellule toute seule, bah, après, voilà, c'est tu bouquines, t'écris. Tu parles avec les autres à la fenêtre si t'as des co-détenus avec qui tu peux communiquer. Voilà. Après, bah, il y a le repas du midi. Après, bah, il se passe rien jusqu'à la promenade de l'après-midi, 3 heures plus tard. Et après, bah, c'est pareil, tu retournes en cellule. Donc soit tu bouquines, t'écris, t'as la télé aussi si t'as de l'argent pour la télé. Et puis après, bah, le repas du soir à 17h. Après fermeture des portes définitive à 17h30. Et t'es enfin seule. Enfin, moi, c'est un moment que j'aimais bien parce que je savais qu'elle pouvait plus ouvrir la porte pour tout, pour rien. Parce que, bon, là, j'ai décrit une journée type, mais après, tu peux aussi avoir des activités, demander à la bibliothèque, te taper une fouille de cellules, ce genre de trucs qui font que, bon, ça va un petit peu changer de la routine. Et voilà, à partir de 17h30, donc tu es tranquille, donc c'est là que tu peux fumer tes joints ou faire ce que tu as envie de faire. Et du coup, bah, après, c'est bouquin, film, un peu de muscu dans la cellule si tu as envie, si tu es en forme, et parler avec les autres. Et voilà, si tu arrives à dormir, c'est bien. Si tu n'arrives pas, la nuit est longue. Et le lendemain, on recommence. Et ça, tous les jours, tous les mois, tous les ans. Au début de mon incarcération, j'étais dans une cellule de 6 personnes. Après, j'ai été dans une cellule de 2 personnes. Et à Fresnes, on m'a mis en cellule individuelle parce que c'est le cas pour la plupart des détenus. Et aussi parce que j'arrivais d'un transfert disciplinaire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, là, par rapport à l'émeute qu'il y avait eu dans la première tôle. Donc, quand t'arrives en transfert disciplinaire, voilà, on t'y met seul pour pas que t'engraines les autres. Déjà, à la révolte. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Voilà. Et donc l'isolement, là, ouais, c'était autre chose, quoi. C'était fini les 400 coups avec mes co-détenus. C'était juste introspection et solitude, quoi. Donc bah, c'est vrai que d'un côté, dans la cellule de 6, c'était hyper chiant parce que voilà, on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes intérêts. La plupart sont devant la télé. Donc toi, si t'as envie de faire autre chose, bah, c'est difficile, quoi. Enfin, tu arrives à... Au bout d'un moment, tu arrives à t'abstraire des autres et tout, mais la promiscuité n'est pas toujours facile, quoi, évidemment. Et après, bah, en cellule individuelle, l'isolement, quoi, tu deviens ouf. Tu attends juste la promenade de la journée, juste pour parler à des gens, pour entendre des voix, pour te sentir vivante, quoi, quelque part. Tu tu sors du cercueil, quoi. C'est un peu ça quand tu sors en promenade et que t'es seul en cellule toute la journée.
Dans le bouquin, tu parles aussi d'avoir une position abolitionniste par rapport aux prisons et aussi par rapport à tous les discours qui vont plus dans le truc de faut les rénover, en construire de nouvelles ou les rendre plus aseptisées, etc. Et je sais pas si t'as des trucs un peu à dire par rapport à ça.
Bah, évidemment, je suis contre l'aseptisation parce que c'est ça qui rend dingue et qui détruit vraiment profondément à l'intérieur, quoi. Moi, je pense que ce qui fait que je m'en suis sortie, donc c'est les moyens personnels que je décrivais tout à l'heure, mais aussi et surtout les contacts avec les autres, quoi. Et moins t'en as et plus c'est dur. Donc bien sûr je suis contre ça. Maintenant la position abolitionniste, je l'ai toujours comme un idéal, une utopie, mais en attendant je trouve que c'est quand même important qu'il se passe des choses en prison. Moi-même j'ai voulu animer des ateliers slam en prison parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, quoi. Le pouvoir des mots, enfin, moi c'est là-bas que j'ai découvert le pouvoir des mots vraiment, et voilà, j'aurais bien aimé du coup donner des outils, des moyens d'expression, mais j'ai pas pu à cause du plan Vigipirate et de mon passé carcéral. Enfin, je pense que s'il pouvait se passer des choses chouettes en prison, ça serait bien. J'en parlais aussi il y a pas longtemps avec un groupe de copines de musique, tu vois, d'aller faire un concert ou de faire des trucs comme ça aussi, parce qu'en attendant, la prison, elle est toujours là, et les gens qui galèrent à l'intérieur, si on peut changer des choses. Après, je suis pas pour rénover tout ça, mais pour proposer des trucs intelligents là-bas, ouais. Moi, j'étais un peu aussi partisane de le moindre moyen de sortir de ma cellule, j'y vais. Donc même si c'est de la merde, j'y vais parce que je vois mes potes et que, voilà, je sors de ma cellule, quoi. Mais après, ma pote détenue politique, elle était plus dans un truc, c'est du divertissement, c'est de la merde, je cautionne pas ça. Donc après, tu vois, il y a plusieurs positions possibles par rapport à ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de détenus qui restaient dans la cellule simplement parce que, avec la culpabilité et tout ce qu'elles avaient sur les épaules, elles avaient pas envie de sortir et d'aller écouter un concert ou je sais pas quoi. Il y a beaucoup de femmes qui sortent pas du tout de leur cellule, hein, faut le savoir aussi, quoi, ni promenade, ni rien du tout, quoi, juste la douche et la gamelle. Mais bon, de toute façon, des concerts, on en a eu un en un an. On a dû avoir un spectacle de théâtre. Il y a vraiment peu de culture en prison. Et du coup, tu vois, j'ai pas envie de cracher dessus, même si ça peut être merdique, quoi. C'est toujours une brèche. Après, il y a plein de gens aussi qui font leur beurre sur travailler en tôle. Et voilà, ça, évidemment, je suis contre, quoi. C'est juste des connards, hein. Voilà, qui profitent de la misère des gens, de la misère sociale. Et qui font leur beurre là-dessus, quoi, et qui se donnent bonne conscience en plus en disant voilà, moi je travaille en tout, et qui s'enorgueillissent de ça, quoi. Alors qu'en fait, ils sont dans un rôle d'assistanat que je condamne clairement parce que ça permet pas du tout une émancipation de qui que ce soit, au contraire. Donc après, j'ai eu de la chance aussi de connaître des intervenants vraiment chouettes en prison. Donc je pense que voilà, on peut, enfin, il y a plusieurs façons d'amener de la culture en prison et de travailler. De toute façon, quand t'es en tant que détenu, enfin, tu peux pas trop être dans un truc autogéré où tu dis genre j'aurais envie de voir ça ou d'écouter ça, on te demande pas ton avis. Donc pour moi, ça peut venir que de l'extérieur, que de proposer autre chose. Et aussi par rapport au féminisme, puisque j'assume aussi mon féminisme aujourd'hui, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup à faire, quoi. Et voilà, j'avais vu il y a pas longtemps dans un film qu'il y avait une prison aux États-Unis où des détenus s'étaient constitués en groupe de parole et après avaient eu des liens avec des féministes à l'extérieur et du coup qui avaient fait fonction de ressources et ça, je trouve ça important parce que comme je disais, beaucoup de femmes sont là-bas à cause du système patriarcal et à cause des hommes qu'elles ont aimés et tout ça, et que du coup je pense qu'il y a une putain de prise de conscience qui est possible à ce moment-là, quand elles sont libérées provisoirement de ces hommes.
Et
est-ce que toi t'avais senti, soit pour toi, soit pour d'autres, que ça soit au niveau du, plus au moment du jugement, du procès ou dans la tôle, des trucs de jugement moraux qui sont plus spécifiques aux femmes?
Ouais, bien sûr, déjà la différence tu la sens à l'intérieur quand t'es incarcéré avec des femmes, parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité qui est là, qui est fort et qui conduit aussi à l'automutilation et à la prise de médicaments. Voilà, les trois quarts des femmes incarcérées prenaient des cachetons, antidépresseurs, trucs pour dormir, etc. Et du coup, elles avaient une image d'elles-mêmes quand même pas terrible. Alors que pour beaucoup de mecs, pour moi, avec qui je communiquais, qui étaient en prison, ils étaient fiers d'eux, quoi. C'était plutôt... ils avaient une médaille, mais nous, on nous jetait plutôt la pierre. Ensuite, au moment du procès, c'était clair que, vu que moi j'étais pour un délit plutôt masculin, entre guillemets, de trafic de stupéfiants, et que j'étais incarcérée avec 8 autres personnes qui étaient des mecs, du coup, ça a été directement la position de la proc et des juges et tout, ça a été dire que je m'étais fait entraîner, quoi, que je pouvais pas faire ça par moi-même et par ma propre volonté. Alors qu'en fait, c'était le contraire, à cette époque, c'est moi qui menais le trafic, mais ça... Évidemment, j'avais pas monté au moment du procès. Donc voilà, vous êtes jeune, vous avez eu de mauvaises fréquentations. La première condamnation, c'était ça leur position. Et puis, à la deuxième, c'était mais vous êtes une personne irrécupérable, délinquante à vie. Voilà. Après, sur la réinsertion aussi, c'était assez drôle. C'est que je me suis mariée, en fait, pas par amour, parce que je crois au mariage. Pour d'autres raisons. Et quand je me suis mariée, la juge d'application des peines, elle m'a dit « Ah, ça y est, vous êtes réinsérée. » Et du coup, d'un côté, ça m'a arrangé parce qu'elle m'a laissé un peu plus tranquille en me disant « Bon, quand est-ce que vous faites un enfant ? Là, vous serez vraiment réinsérée, quoi. » Mais en gros, c'était ça.
Et est-ce qu'à l'intérieur de la prison, t'as aussi des trucs là qui poussent justement plus à un truc de normalisation féminine, que ce soit dans des activités qui sont proposées ou des messages?
Les seules formations qui existaient dans la maison d'arrêt où j'étais, c'était pour être secrétaire ou coiffeuse. Donc déjà, voilà, les choses sont claires. Oui, il y avait aussi de temps en temps une esthéticienne qui venait, soi-disant pour qu'on se sente mieux dans notre peau, etc. Mais aussi pour qu'on retrouve notre féminité. Puis les seules activités qu'on a réussi un peu à avoir, c'était toujours de la poterie, du tricot, de la cuisine, ce genre de trucs. Alors que le sport, on avait le droit deux fois par semaine, alors que chez les hommes, c'est tous les jours, ils ont des salles de muscu, ils ont tout ça, et nous, on n'avait pas du tout accès à cette culture physique et à ce moyen de se défouler aussi et de s'approprier son corps, qui, pour moi, a été quand même hyper important, même si on n'en avait pas beaucoup. Moi, j'allais à tous les sports possibles et vraiment, ça a été un moyen pour moi de me reconstruire et de m'en sortir par la suite. Donc vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'accès aux activités sportives et tout ça. Et en même temps, ça fait partie du système de réassignation à notre place de femme, pour moi.
Et ça, c'est un truc dont, par exemple, toi, tu pouvais parler avec d'autres?
Disons que moi, j'essayais, j'avais quand même... je discutais beaucoup avec les autres détenus et tout ça. Dès que j'avais un moyen d'être en contact avec elles, je le prenais. Maintenant, je suis quand même incarcérée comme elles. Du coup, le poids de mes propos par rapport à celui de la société, de leur famille, il est pas, tu vois, il pèse pas beaucoup dans la balance. Voilà, et après, on était un peu les filles qui avaient mon âge, j'avais 18 ans à l'époque, qui étaient un peu plus tête brûlée, qui avaient pas ces responsabilités, cette culpabilité-là, et qui raisonnaient un peu comme des mecs, on disait à l'époque, c'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire, je prends l'argent là où il est, et j'emmerde le reste du monde, quoi. Mais c'était quand même minoritaire, mais il y en avait, quoi. C'est ça. Après, il y avait aussi dans la tôle un putain de paternalisme, parce que oui, les gradés sont tous des hommes et les surveillantes sont toutes des femmes. Donc on avait le choix entre paternalisme et maternalisme. Et c'était sympa. Donc pour nous qui étions jeunes, les gradés mecs, souvent ce qu'ils nous disaient, c'était qu'ils allaient nous rééduquer en prison, quoi. Qu'on avait pris trop de liberté, nous mettre à notre place, quoi. C'était, le message était clair. Et pour les femmes, c'était vous ne respectez pas, vous avez vu ce que vous avez fait, comment vous êtes, toujours des trucs sur le corps, sur comment on s'habille, sur comment on parle. Ouais, on parle trop mal aussi parce qu'on disait des insultes tout le temps et tout. Enfin, c'est normal quoi. T'es incarcéré, t'as juste la rage et t'as juste envie d'insulter toutes les putains de surveillants. Donc, c'est. Voilà, sur le langage, sur le corps, sur le travail. Enfin, pour moi, dans tous les domaines, on était réassignés. Mais bon, je te dis ça avec le recul parce qu'à cette époque, j'en prenais conscience petit à petit, mais.
Bah, c'est difficile de faire des généralités, mais par rapport à des discussions que t'as pu avoir, par exemple, avec plus des potes gars qui étaient en tôle, est-ce que t'as l'impression que les rapports entre les meufs en tôle, ça se passe différemment, ou je sais pas si t'as des trucs à dire là-dessus.
En gros, quand même, par rapport à ce que me racontaient les mecs, ben, pour eux, il y avait quand même beaucoup de violence les uns contre les autres, de bagarres, de raquettes, des trucs comme ça. Et que ben, chez les meufs, beaucoup moins, quoi. Les seules qui étaient vraiment victimes de violence, c'était celles qui avaient commis des crimes contre des enfants. Du coup, il y avait un peu des vendettas, des trucs comme ça, mais c'était quand même très rare. Et après, bah, il y avait aussi quelques toxicos en manque avec qui c'était pas toujours facile. Et des fois, bon, voilà, de t'arracher les yeux pour un cacheton, des trucs comme ça. Enfin, au quotidien, c'était pas tous les jours, quoi. Par rapport à la solidarité aussi, quand je racontais un peu comment nous on rigolait ensemble, comment on essayait de, voilà, de se cacher ou de cacher certaines quand il fallait, de tous ces trucs de eux et nous, on était quand même plus solidaires apparemment que les mecs. Mais aussi du fait, je pense, qu'on était moins nombreuses, et aussi du fait qu'on avait moins de soutien extérieur, enfin quelque part, tout concourait à ce qu'à l'intérieur, on soit un peu obligé de se serrer les coudes, et tant mieux. Voilà, c'est tout après pour les généralités. Aussi par rapport au rapport au sexe et tout, parce que les mecs, ben voilà, ils étaient à fond là-dessus, sur l'imagerie porno, sur tout ça, ça faisait vraiment partie de leur quotidien. Toutes les façons de se masturber aussi qu'ils m'ont raconté, des trucs comme ça. Et que pour les meufs en détention, bah c'est un peu différent quoi, par rapport à ça. Genre, on regardait pas des films de cul, enfin ça nous intéressait pas pour la plupart. Après, il y en a quelques-unes ouais, qui le faisaient, mais c'est ça. Par rapport à la masturbation, bah on en parlait peu, même s'il y en avait beaucoup sûrement. Mais bon, enfin voilà, ce genre de différence, après c'est pas statistique, quoi, c'est mon ressenti.
Ouais, puis bah disons qu'en fait c'est un peu les mêmes qu'à l'extérieur, quoi. C'est
ouais, c'est clair.
Bah, je veux dire, c'est comme, je sais pas, moi au collège ou au lycée, je pense que tu parles moins entre meufs de masturbation que les gars, quoi. Du coup, au final, il y a pas vraiment de raison que ça soit super différent une fois. Est-ce que tu peux parler de comment ça peut être vécu ou perçu, bah, soit de s'assumer lesbienne en prison, soit des rapports qu'il peut y avoir entre détenus?
Ouais, bah, c'est étrange parce que j'ai pensé récemment justement en me disant aujourd'hui si j'allais en prison, est-ce que j'assumerais d'être lesbienne ou pas? Et je répondais finalement que non, parce que si t'es grillé après, ça veut dire que les cellules à plusieurs, ça va être compliqué, s'ils le savent. Et voilà, ça a été le cas donc pour une amie à moi qui a voulu aller en cellule avec sa meuf, puisqu'elles sortaient ensemble dans la tôle. Et au début, donc ils ont autorisé le changement de cellule, et puis quand ils ont compris qu'elles étaient ensemble, ils les ont séparées. Après, il y a aussi deux détenus qui sont arrivés ensemble et qui étaient en couple à l'extérieur et qui, du coup, avaient été séparés d'office dans deux divisions différentes et qui essayaient de trouver tous les moyens possibles de se voir. Et nous, on était solidaires de ça parce qu'on essayait de leur arranger des moments seuls, voilà, dans les moments collectifs, quoi. Et ce genre de truc. Donc après, moi j'en ai déjà parlé aussi avec des surveillantes et tout ça, par rapport à ça, elles disent qu'il n'y a pas de problème, et d'un autre côté, bah, elles font tout pour les séparer. Donc voilà, double discours, mais c'est clair que c'est mal vu, parce que se donner de l'amour et de l'affection en prison, de toute façon, ça ne va pas dans leur intérêt. Moi, j'étais parmi ces détenus plutôt solidaires, et voilà, mais il y avait aussi deux détenus qui en avaient peur. Et du coup, bah, qui était moins solidaire, quoi. Parce que, bon, bah, moi, c'est vrai que dès que je suis arrivée, d'ailleurs, je me suis fait draguer par une fille et tout, et tu vois, c'était la première fois, donc c'est toujours impressionnant. Et j'ai flippé un peu parce qu'elle était vraiment dans une drague un peu lourde, quoi, tu vois, et avec tout le monde, enfin, elle essayait avec beaucoup de monde, quoi. Et du coup, bah, ça peut être un peu chiant de trouver voilà, victime de ces avances un peu violentes et répétées. Donc voilà, elle n'a pas contribué à donner de bonne image, je pense, des lesbiennes et tout ça. Mais après, bah, y en a une aussi qui a été identifiée, et c'était un peu, ouais, sale lesbienne et tout ça, mais c'est aussi lié à l'apparence de la meuf, quoi, parce que celle qui était plutôt mignonne et dans les canons de beauté genrée et tout ça... elle avait plutôt du succès et bon, enfin voilà, c'est lié à plein de choses après. Mais de la part des détenus, il n'y avait pas vraiment d'ostracisme. Enfin voilà, il y avait juste une peur de la contamination parfois. Et après, bah, il y en a beaucoup aussi qui étaient hétéra dehors et qui sont redevenus en sortant, mais qui ont une expérience lesbienne à l'intérieur. On en pense ce qu'on veut, mais bon. Donc la plupart ont été quand même plutôt séduites et curieuses en fait. Des lesbiennes, quoi, de ce que j'ai vu. Mais c'était minoritaire, hein. Il y en avait quelques-unes sur une centaine, hein. Il y en avait 4 ou 5. Pas grand-chose à dire sur les lesbiennes parce que j'y étais pas encore à cette époque. Mais bon, je le suis devenue en sortant. Voilà, et je suis bien contente que la tôle m'ait ouvert les yeux et fait connaître plein de femmes super chouettes parce que c'est ça qui m'a aussi fait devenir lesbienne parce que comme je disais avant bah j'étais je traînais qu'avec des mecs du coup bah je couchais pas trop avec eux mais enfin bon je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas mais je me sentais plus proche d'eux voilà pour des raisons pratiques de valeurs et tout et que j'étais misogyne quoi en vrai et que bah voilà mon regard et ma façon de penser a changé là-bas puisque j'ai été obligée de côtoyer que des meufs tout le temps et du coup bah je pense que voilà j'ai découvert la non-mixité et ça m'a fait du bien et depuis je continue à la rechercher parce que je pense que ça apporte beaucoup de choses en termes de libération.
Even though you ain't did nothing violent. So Hurricane G, spit this, rip this. Straight out the poorest congressional district. The Bronx, baby, shit is crazy. I see my niggas get harassed daily. When 83rd, you heard, got a lot. But shit is hot, we got choppers on the spot. Watched off rooftop, from way up the block. The niggas be like, fuck the cop. And face the consequences. Risk being beat, killed and arrested. Sentence. Forced to live between wire fences. It's a fucked up agenda. Whether cop a plea or surrender. If you's a three-time drug offender, you going down, son. For way less than a pound, son. The government got no love. 25,000 niggas in New York in jail for drugs. And 3 million in the streets is thugs. What the fuck?
Ayo, I drop gems sporadic. It ain't democratic. My demographic ain't trying to feel no type of static. But still can't escape from Jake. From 168 to over the bridge, out of state. It's hate. Trying to relate the violation, annihilation on all different type of nation. Word life, it's like the Third Reich. You heard right. Pull me over on the turnpike. Plus my birthright thwarted by the government supported. Court ordered. Good lawyer, I can't afford it. Sound distorted. I don't be where the wealthy be. So they gotta sell for me and act unhealthily. But I got something that they all should check. NYC, PMP, up on your set.
Blowing down your motherfucking roof.
You watch us, we watch you. You stop us, we stop you.
You going down, son.
We watch you. We stop you.
Down, son. For way less than a pound, son.
Shit,
700 million tax dollars a year to keep drug dealers in prison while the rapists and the killers is living. Deep in the streets, chillin', shit is real. Niggas rape little girls for a thrill, and the rest kill for a meal. While 50% of women in prison is on death row. But that shit is on the low, for murdering a spouse, a lover. Abusive motherfuckers, it don't make no sense. Why the women go down over self-defense, and spend 17 hours a day in the cell. A.K.A. a living hell with low-level standards. Fucking bastards. Got me devastated and offended. For wrongfully mistreating females who pregnant. Who can't exercise the right to First Amendment. All my people stop pretending and get yours to the ending.
Hey yo, peep statistics. We official in the district. Sadistic, trying to keep the black fist twisted. Find the flaws, shining stars behind iron bars. Crime laws, not designed to fight no kind of wars. Let it sink in, straight to Sing Sing. Doors are kicked in, kingpins flee to Kingston. Life in exile, projectile for the reptile. Cruel machines use human beings as a textile. For the darkest race, there's no escape from the marketplace. No grace if you caught a case. Interest me, how one of the most watched indices of economic growth is prison industries. If guards ain't locked, no jobs for cops. If blocks ain't hot, stock options drop. From Boston to Brooklyn, my heads is getting tooken. I win when the crooks win. We out, bring the hook in.
Blowing down your motherfucking roof. From the heart. Blowing down your motherfucking roof.
We stop you.
Vous venez d'écouter un morceau de la rappeuse Hurricane Jack, un morceau contre les prisons qui s'appelle No More Prison. Du coup, c'est une rappeuse d'origine portoricaine qui vit à Brooklyn, New York. Ouais, c'est un morceau contre les tôles et qui dénonce aussi le racisme des keufs, de la justice et de sa suite logique, la tôle. Et puis elle dénonce aussi comment des meufs se retrouvent en prison pour de l'autodéfense en fait, comme par exemple d'avoir tué leur copain ou leur mari violent depuis des années. Et la suite de ça, c'est qu'elle se retrouve en tôle ou pour une bonne part dans le couloir de la mort vu que ça se passe aux États-Unis.
Et alors du coup, moi j'avais envie de dire deux trois trucs sur ce qu'elle dit Audrey là à la fin de son interview sur le fait que la prison ça a été aussi non mixité et que en fait elle avait trouvé ça chouette et qu'elle le recherchait à l'extérieur cette non mixité et du coup moi ça m'a fait penser aussi à ce que j'avais pu lire dans le bouquin Femmes en prison de Christine Trinquier ou qui est un recueil de témoignages de femmes en prison et où en fait c'est un peu paradoxal mais et malgré l'horreur en fait de la prison et que tout ce que ça implique d'être en tôle en fait il y avait pas mal de témoignages en fait qui disaient que en fait elle s'était construite en fait en prison et que le fait d'être en tôle, d'être séparées de leur mec et tout ça, et ça faisait un truc qu'elles avaient pris conscience, elles avaient découvert en fait qu'elles pouvaient être autonomes, qu'elles avaient la possibilité en fait d'exister par et pour elles-mêmes. Et du coup ça, elles avaient découvert en tôle parce qu'elles étaient plus dehors sous le joug de leur mec en fait. Bon, des fois aussi c'est aussi lié au fait que elle est tentée de tuer ou qu'elle est tuée et du coup là c'est peut-être plus ça découle aussi de ça, mais il y avait aussi des trucs comme ça que les meufs elles découvraient en fait qu'elles avaient des capacités et ça elles le découvraient en tôle en fait.
Ouais, c'est vachement ce qu'elle dit, ce truc de qu'avant elle était hyper misogyne, qu'elle traînait qu'avec des gars et qu'en fait c'est en tôle qu'elle a rencontré des meufs fortes, tout ça. Et aussi je pense avec ce truc de solidarité, de pouvoir un peu compter que les unes sur les autres, surtout si tes proches, l'extérieur te laissent complètement tomber ou tu te retrouves hyper jugée, ça fait que les personnes sur qui tu peux compter, de fait c'est t'es co-détenue quoi. En fait, en liant ça, je me dis, c'est peut-être pas non plus sans rapport avec le fait que la sexualité lesbienne ou on va dire homosexuelle, disons les relations entre femmes, parce que du coup, c'est pas obligatoirement revendiqué comme justement de la sexualité lesbienne, quoi. Mais que ça soit autant invisibilisé ou réprimé en tôle, quoi. C'est que ils veulent pas non plus que les meufs ça devienne des gouines, sinon ça n'irait pas du tout avec le truc de réassignation. Puis c'est ce qu'elle dit, c'est que les matons, ils veulent pas que le but c'est de réprimer tous les trucs qui iraient vers trop de complicité, trop de solidarité, et du coup on imagine trop de trucs se donner de l'amour, de l'amitié et des relations trop fortes, tout de suite faut y mettre fin quoi. C'est
ce qu'elle disait Audrey dans le fait que quand elle avait été qu'elle avait rencontré quelqu'un dans une cellule et qu'ils les avaient séparés au bout de quelques mois parce qu'elles étaient trop, elles étaient hyper potes et tout ça machin quoi. C'est ce truc là aussi quoi de casser toutes les relations en fait qui se construisent quoi en prison.
Ouais, c'est ça, c'est que c'est sûr que oui, leur logique c'est trop de complicité égale potentielle révolte, donc faut casser ça à la racine quoi. Et par rapport aussi à la sexualité lesbienne en prison, c'est vrai que c'est pas hyper facile de trouver des trucs là-dessus. Et c'est aussi lié au fait que au final la prison c'est aussi juste un reflet de la société à l'extérieur quoi, et que du coup c'est logique que l'invisibilisation et la répression par rapport aux lesbiennes et aux sexualités entre femmes en général, elles se retrouvent à l'intérieur, et ça fait que c'est pas hyper facile de trouver des témoignages et des documents là-dessus. Mais bon, si vous voulez aussi en savoir plus, il y a quand même entre autres une brochure qui existe qui s'appelle « Sexualité lesbienne en prison » qui a été écrite par Natacha Chet-Cuti. Et dans cette brochure-là, elle parle de différents trucs, entre autres, en fait, elle a un positionnement de justement ne pas être en référence ou en comparaison avec les prisons pour mecs. Dans cette idée où elle dit, mais les seules études qui existent, c'est toujours, on se réfère et on compare aux prisons pour hommes. Dans ce truc qui est présent partout, les hommes, c'est le référent, et du coup, les femmes, c'est le spécifique. Donc elle, déjà, elle refuse ce positionnement-là. Et après, il y a aussi pas mal une analyse, justement, de tout le truc de moralisation, d'infantilisation aussi des femmes qui est contenu dans la logique carcérale. Avec un peu aussi ce truc que disait Audrey, quoi, de la position des matons, on va vous rééduquer, on va faire redevenir genre des bonnes filles ou des bonnes épouses, des bonnes mères, etc. Avec ce truc qui est quand même énorme, où par exemple, le mariage, c'est super, c'est la réinsertion, quoi. Puis alors les enfants, là, ça serait carrément le bouquet, quoi. Du coup, elle parle pas mal de ça, mais aussi de l'hétérosexisme et du coup de comment l'hétérosexualité, vu que c'est l'évidence, le référent, tout ce qu'en sort, c'est vu non seulement c'est vu comme déviant, mais c'est surtout que en fait ça va pas être parlé, ça va pas être analysé, ça va pas être montré, et que c'est un peu un espèce de sujet tabou, quoi, ce truc de sexualité entre femmes en prison. Et aussi par rapport à d'autres témoignages qu'on a pu lire, il y a aussi des personnes qui disent que la sexualité dans les prisons de femmes, elle va être encore plus réprimée que dans les prisons de gars, notamment par exemple au niveau de la surveillance des parloirs, où dans les prisons de mecs peut y avoir un peu une espèce de position de l'administration, de la matonnerie, tout ça, de dire c'est un peu limite, les gars, ils ont des pulsions, tout ça, donc on n'a pas qu'à un peu peut-être se laisser faire des choses comme ça, en gros, ça les tient au calme, je pense, un espèce de sous-entendu comme ça, alors que pour les femmes, les parloirs...
C'est pas tout accepté dans ce sens-là, parce que les femmes, elles ont pas des pulsions, ou elles ont pas, enfin, c'est considéré plus naturel chez les hommes que chez les femmes, et que d'ailleurs, on leur a appris depuis tout le temps à contenir ce genre de truc, et que c'est pas un truc naturel, en fait, c'est un truc juste social, que les hommes, on leur a appris à les laisser sortir et les femmes à les contenir, en fait, quoi. Et du coup ça se reflète dans ce truc de parloir, où chez les femmes c'est vachement moins accepté que chez les hommes.
Ça, et puis aussi le fait que de toute façon en tôle t'as aucune intimité, du coup ton courrier il est lu, t'es à plein, t'es en permanence surveillé par des personnes qui peuvent regarder ce que t'es en train de faire, donc tout ce qui est masturbation, sexualité ou courrier que tu pourrais échanger ou rapport entre autres, c'est ultra fliqué en permanence, donc avec en plus le tabou des rapports sexuels entre femmes, ça fait que obligatoirement c'est hyper tue, et je pense cette espèce de truc, donc si ça se passe, faut pas que ça se voit, quoi, en gros. C'est un peu ça, et aussi ça c'est un des trucs qui est présent dans cette brochure, quoi, dans les témoignages qu'elle a pu recueillir. Donc pour conclure, toutes les brochures, les bouquins dont vous a parlé dans cette émission là mais aussi les deux d'avant, quoi, sur ce thème femme en tôle, Pour la plupart, vous pouvez les retrouver sur infokiosque.net, mais aussi à la bibliothèque féministe de la Capuche, qui est donc au 5 rue Bergson, dans le quartier de la Capuche, et qui est ouverte les jeudis de 16h à 20h. Le premier du jeudi du mois, c'est en mixité. Et les trois autres jeudis, c'est en non-mixité Meuf Queen Trans. Si vous voulez aussi écouter les deux émissions d'avant, ou nos émissions en général, c'est possible de les retrouver sur Indie Media Radio. Et ensuite, en tapant dégenré, tout ça, vous pourrez retrouver les émissions. On avait aussi quelques infos à vous donner. Alors, première info, c'est le mardi 1er mars à 19h30. Il y a une projection Transpédéguine au 56. Le 56, c'est un squat qui est ouvert depuis quelques mois. Cette soirée, elle sera en mixité choisie Transpédéguine Meuf. Le film, c'est Pink Camouflage, un documentaire de Sarah Brack qui date de 2009. Et en fait, qui parle comment les droits des homos comme les droits des femmes, ils sont souvent présentés en étendard du fameux conflit des civilisations. C'est-à-dire que ces droits, ça serait des acquis en Occident menacés par l'islam. Et que donc, logiquement, ça serait à défendre et imposer partout dans le monde. Du coup, ça arrive que on en arrive même à utiliser cet argumentaire raciste pour justifier et légitimer des guerres néocolonialistes. Et du coup, dans ce documentaire, justement, à contre-courant de ces discours ambiants, il y a des activistes homo entre le Liban et la Belgique qui parlent et qui donnent leur vision sur la relation entre guerre, politique et sexualité, et qui abordent aussi le fait que les identités LGBT, elles se construisent différemment à travers le monde, et que et qu'on a aussi intérêt en tant que transpédéguine à réfléchir sur sur ces histoires de racisme, de néocolonialisme, pour réfléchir à la solidarité internationale et à sa complexité. Du coup, la projection, elle sera suivie d'une discussion. Il y aura aussi un bar, un buffet, des infokiosques. Vous pourrez aussi trouver les brochures dont on vous a parlé aujourd'hui. Et tout ça, ça se passe au 56 rue du Docteur Hermite à Grenoble. Et si vous voulez y aller en tram, le plus près, c'est l'arrêt Valier-Catane, du coup, avec le tram C. Et l'entrée est à prix libre.
Le 8 mars, il y aura une projection au 56 rue Docteur Hermite du film Real Women Have Curves, désolé pour l'accent anglais, qui veut dire Les vraies femmes ont des rondeurs, et qui du coup est un film sur la grosseur. Ça sera à partir de 18h30.
Et on va vous quitter avec un dernier morceau sur la tôle, mais qui cette fois-ci est un peu, enjoué et dynamique, vu que ça parle d'une émeute. Du coup, c'est un morceau de Vanda Jackson qui s'appelle Riot on the Cell No. 9. Et qui parle d'une émeute dans une prison de femmes. Et c'est aussi marrant parce que c'est un détournement à la base d'un morceau qui existait avant et qui parlait cette fois-ci d'une émeute dans une prison de mecs. On vous laisse avec Vanda Jackson et bonne soirée.
Salut.
On July 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Come out with your hands up in the air. You don't stop this riot, you all gonna get the chair. two gun, Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this music list, there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. They called the state militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9.